I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition Clubhouse. Cet épisode est le replay de l'émission que je fais sur Clubhouse tous les vendredis à 18h. Tous les vendredis à 18h sur Clubhouse, nous échangeons, nous parlons avec une équipe de coachs et de spécialistes RH et avec vous à propos d'un sujet. Cette semaine, le sujet était double, le burn-out et le bore-out. Comment l'éviter ? Cette émission, les amis, était vraiment passionnante, avec des témoignages poignants, avec des tips extrêmement intéressants de la part de l'équipe de coachs et spécialistes RH. Donc j'espère que vous allez passer un aussi bon moment à écouter ce replay que j'ai eu à enregistrer cette émission. Bonne écoute et peut-être rendez-vous à vendredi prochain sur Clubhouse à 18h pour participer. Bonne écoute. Comme d'habitude, je vais faire une introduction au sujet sur le burn-out et le bore-out et je vais juste commencer, c'est jamais long, ne vous inquiétez pas, avec une petite définition. Le bore-out, c'est très simple, c'est on s'ennuie au bureau. Et le fait de s'ennuyer au bureau, je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, c'est horrible. C'est-à-dire que on compte nos heures et surtout si on doit partir à 18h, à partir de 17h30, on regarde notre montre toutes les deux minutes et on a l'impression que y a un quart d'heure qui est passé, en fait, il s'est passé qu'une seule minute. Et c'est infernal. Et le bore-out mène à la dépression directement. Le burn-out, c'est un peu différent. Ce sont des gens qui sont très, très, très impliqués dans leur travail et qui, à force de jamais déconnecter, vont exploser littéralement. Burn-out, c'est vraiment une explosion interne. Et j'ai eu des amis qui ont fait des burn-out et la réalité du burn-out, c'est du jour au lendemain. Et c'est pour ça, les gens qui ne le savent pas, il faut vraiment le dire. Du jour au lendemain, tu ne peux pas te lever de ton lit. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui fait que non, je ne peux pas. Et ça n'a rien à voir avec une dépression, c'est juste le corps te dit ne va pas travailler. Et ce qui fait que c'est un tout petit peu handicapant, bien entendu, on met très longtemps à s'en remettre. Malheureusement, le burn-out est très mal accepté en entreprise, donc faire un burn-out, ce n'est pas forcément simple à gérer dans un deuxième temps. Et je tenais à préciser quelque chose, alors que je sais qu'on a une audience relativement internationale, donc si vous êtes dans d'autres pays, les amis, n'hésitez pas à monter sur le stage pour venir nous parler de vos expériences. Juste pour information, la France, oui, je mets un blanc pour que l'information ait plus de poids, est numéro 2 mondial du burn-out. 10% des salariés français ont ou vont faire un burn-out. Il y a 3 semaines, le chiffre est tombé, 2 millions de salariés français sont en burn-out aujourd'hui. Le seul pays qui nous bat dans le monde, c'est le Japon. Bref, le burn-out, c'est un vrai énorme sujet. Et donc, on va en discuter donc, avec nos spécialistes. Donc, nous avons Léna qui est coach et qui va bien entendu nous parler du burn-out, du bore-out. Hervé Charles qui est un spécialiste des RH. Et mille merci d'être là, Hervé Charles. Et volontairement, alors peut-être que ça changera pendant la room, nous ne parlerons pas d'un autre concept qui s'appelle le brown-out, qui est la perte de sens, parce que je dois bien avouer, alors si Hervé Charles et Léna ou d'autres personnes veulent me convaincre du contraire, je suis entièrement tout oreille pour me dire non, le burn-out c'est différent, parce que le burn-out c'est la perte de sens. Donc voilà, ma chère Léna, qu'est-ce que t'évoque ce sujet, burn-out, bore-out, comment y échapper ?
Alors je voulais rajouter quelques chiffres qui me semblent importants, c'est, je ne sais pas si tu l'as dit, le burn-out concerne 1,5 fois plus les managers. Donc, tu as parlé de personnes impliquées. Donc, effectivement, le burn-out concerne vraiment les personnes qui se surimpliquent au travail. Et on a traversé un contexte très difficile. 44% des salariés sont en détresse psychologique.
Et c'est vrai que ce mot, Léna, merci de rappeler ce chiffre-là, détresse psychologique, et 44%. Et ça, c'est un chiffre qui date, je crois, d'il y a un mois, Léna, et c'est un truc de dingue. C'est dingue.
C'est ça. Et pour revenir au burn-out, alors moi je pense que c'est intéressant de l'aborder, mais libre à toi.
Non, bien sûr, mais je ne demande qu'à être convaincue du contraire, Léna. Donc dis-moi pourquoi il faut en parler.
Alors c'est différent du, c'est légèrement différent du burn-out et du bore-out que tu as bien défini. C'est quand on a des tâches, on a le sentiment d'avoir des tâches absurdes à accomplir et qui sont contraires à nos valeurs. Et donc petit à petit, il y a une dégradation en fait qui est progressive de son investissement au travail. On se sent inutile. Parce que, alors là, c'est différent du bore-out où on a le sentiment de n'avoir rien à faire et du burn-out où on se sent complètement surchargé parce qu'on a, on est dans des situations de travail qui sont exigeantes. Là, on a vraiment des tâches qu'on trouve complètement absurdes et sans intérêt.
Ouais, mais le bore-out, c'est un petit peu ça. Ah non, je comprends ce que tu veux dire.
Le bore-out, c'est la sous-charge de
D'accord.
travail.
Et le burn-out, c'est tu as du boulot. Mais tu comprends pas, c'est genre les bullshit jobs, c'est ça ?
C'est complètement débile.
C'est la théorie des bullshit jobs, c'est ça ?
Plus ou moins, ouais. Ou ça peut être un job important, mais moi, ça m'est arrivé, par exemple, à titre personnel, un poste qui te paraît important, on te le présente avec des tâches intéressantes, et une fois que tu es en poste, bah, tu réalises que ce que tu fais n'a aucun intérêt.
Je comprends.
En tout cas, c'est le sentiment de l'avoir.
Léna, on parlera du burn-out alors, si vous voulez parler de ça. Donc, on accueille Céline sur le stage, mais avant, Céline, de te donner la parole, on va donner la parole à un des trois modérateurs, Hervé Charles. Qu'est-ce que t'évoques le sujet, donc burn-out, bore-out, comment y échapper ?
Alors déjà, je veux rejoindre Léna sur la notion de burn-out, qui est différente effectivement du burn-out.
Donc vous êtes tous les deux contre moi en fait, vous êtes...
Oh, mais là, absolument.
Ah mais c'est très bien, j'adore ça, c'est super.
Et simplement, si on essaie de résumer le burn-out, c'est souvent la désillusion. Et je reprendrai tout ce qu'a dit Léna, effectivement, de la définition. Donc, c'est quand même différent du burn-out. Je voudrais aussi expliquer qu'il y a une grande différence, et souvent, il y a une confusion entre la notion de dépression, mais tu l'as fait en introduction, entre la notion de dépression et la notion de burn-out. Si on résume très simplement, la dépression, elle va prendre du temps. Ça va être, on va effectivement tomber dans une sorte de mélancolie, ça va être progressif et à un moment, bah effectivement, on n'y arrivera plus. Alors que le burn-out, comme tu l'as expliqué, bah un matin, on se lève et on ne peut plus se lever. C'est ça la grande différence en fait, entre les deux. Il y en a d'autres, hein, mais la plus simple est celle-ci. Aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit avec les chiffres, alors moi qui interviens sur les RH et surtout sur les risques psychosociaux, bah, je l'ai longtemps appelé la quatrième vague. Et finalement, ce sera peut-être la cinquième, 44%. C'est à peu près ça, et ça risque d'être plus à partir de septembre, où là, on a vraiment, enfin, on le voit au quotidien avec mes collaborateurs, vraiment, les gens sont au bout du bout. Quand on voit que 81% des DRH sont épuisés, on se demande comment va se passer la rentrée, notamment avec ces éléments de passe sanitaire, les obligations qui vont incomber aux entreprises, aux employeurs et aux RH.
Mais est-ce que tu n'as pas l'impression, Hervé Charles, que la pandémie a un peu ouvert les yeux sur ces questions ? Moi, j'ai le sentiment quand même que le burn-out, avant la pandémie, on en parlait, mais finalement, c'était un peu un épiphénomène pour les RH. Et toi qui es dans les RH, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la détresse psychologique, je ne dis pas qu'on la gère mieux, mais en tout cas, j'ai le sentiment que les entreprises en ont plus conscience, non ?
On a changé de regard dessus. C'est plus ça, en fait. On en avait conscience, mais tu sais, c'est un petit peu comme la poussière qu'on met sous le tapis, quoi. Oui, on va gérer, on va regarder tranquillement, et voilà. Parce qu'il y a les responsabilités de l'employeur, hein, parce que ça, c'est le code du travail qui le dit. Mais aujourd'hui, effectivement, comme ça touche toutes les strates de l'entreprise, vraiment, hein, du big boss au N-40, eh ben, on s'est dit que finalement, il fallait le prendre en considération et c'est plus simplement un élément juridique du contrat de travail, du droit du travail, tout simplement, enfin, je pense.
Alors, j'aime bien ça parce qu'on va revenir au débat parce que Hervé Charles et Léna, je suis désolé les amis, parce que vous avez été méchants avec moi, parce qu'on va parler du burn-out, parce que vous dites, hé, Châtelain-Berry, on va parler du burn-out. Mais Léna, tu disais plutôt burn-out pas réservé aux managers et je sais bien, Léna, que tu n'as pas dit ça, mais il y avait quand même plus sujet au burn-out, les managers que les autres. Et Hervé Charles, tu dis, ça touche tout le monde. Donc, ça va faire partie des discussions. Donc, on va accueillir sur le stage Céline, Mehdi et Neza. Donc, juste Léna et Hervé Charles, bien entendu, dès que vous cliquez du micro, je vous donne la parole si vous voulez réagir ou répondre à un de nos intervenants. Chère Céline, bonjour.
Bonjour.
Alors, dis-nous.
Bonjour.
Salut.
Je monte un peu sur le stage par hasard parce qu'en fait, on m'a invité. Alors, je suis dans la finance, donc effectivement, je pense que c'est un des métiers peut-être assez touchés, parce qu'il a un petit peu évolué. Je deviens une spécialiste parce que là, c'est mon troisième burn-out. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que le problème du burn-out, c'est que ce n'est pas encore reconnu par la médecine du travail et surtout par la sécurité sociale.
Alors, Céline, malheureusement, le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle. Effectivement,
exactement.
Et c'est important de le rappeler, parce qu'il commence à y avoir des tendances dans certains pays, mais ce que tu dis, et je te redonne la parole tout de suite, mais je suis un énorme bavard, Céline, pardon, mais ce que tu rappelles est fondamental, ce n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, alors que c'est éminemment une maladie causée par le travail. Et je te relaisse la parole, mais je suis halluciné. Trois burn-out ?
Oui. Donc, il y en a un que j'ai fait en 2012, sauf que je n'ai pas, il n'a pas été reconnu, je ne l'ai pas identifié. Donc, j'ai donné ma démission et j'ai recommencé à travailler tout de suite. Donc, il n'a pas été ni identifié ni soigné. Bon, j'étais dans un travail un peu plus cool, j'ai repris. Donc, je l'ai vécu comme ça. Et puis, j'en ai fait un l'année dernière. Je me suis arrêtée 6 mois au chômage. Et j'ai repris un travail beaucoup trop tôt. Donc, j'en ai refait un an après.
Alors, petite question, donc, Céline. Et bien entendu, tu as le droit de ne pas répondre. Parce que je le rappelle, cette room est enregistrée. Donc, il n'y a strictement aucun problème de ne pas répondre. Est-ce que tu as été suivie pendant tes burn-out psy ou par un médecin ?
Tout à fait. Donc, j'ai été tellement malade que j'ai été suivie par un psychiatre. J'étais assez bien soignée. J'ai repris trop tôt. Et ce qui fait que le problème du burn-out, c'est qu'on ne voit pas ses limites. Donc, dans mon nouveau travail, j'ai repris fin juin, j'avais arrêté fin janvier. J'ai repris mon travail fin juin et en septembre, j'ai fait, par exemple, une journée de 19 heures d'affilée. J'étais déjà malade parce qu'on ne peut pas faire ça.
Attends, pardon Céline, excuse-moi. 19 heures d'affilée, mais tu fais quoi comme travail ?
Je suis responsable financier.
19 heures d'affilée ?
Oui, là, déjà, on a une perte de contrôle. Oui, j'ai commencé vers 9 heures du matin, j'ai fini à 3 heures du matin en mangeant devant mon ordinateur. Le lendemain, j'ai dormi 4 heures, j'ai recommencé, j'ai fait 14 heures d'affilée.
Mais en fait, c'est vraiment ça. Et je vais laisser. Excuse-moi, Céline, on te redonnera la parole après, bien entendu, mais je veux impérativement que Léna et Hervé Charles interviennent parce que, enfin, rendez-vous compte. 19 heures d'affilée et toute la problématique. Et Céline, c'est pour ça que je voudrais donner la parole à Léna et Hervé Charles. L'énorme problématique du burn-out, c'est un, c'est pas reconnu. Et du fait que ce n'est pas reconnu, bien souvent, on se met une pression. Parce que quand on a le burn-out, on va culpabiliser d'avoir fait un burn-out. Donc, on va vouloir retourner au travail le plus vite possible parce qu'on vous fait bien sentir, si tu as fait un burn-out, c'est peut-être parce que tu es faible. Et en fait, plus tu te mets la pression, plus tu retournes tôt. Et plus potentiellement, tu peux retomber en burn-out. Léna, Hervé, Charles et Céline, on revient vers toi vraiment parce que c'est passionnant ce que tu nous racontes. Moi, je suis halluciné et malheureusement, c'est tellement classique. Léna, ce genre de témoignage, ça te fait quoi ?
Je l'entends régulièrement et bien entendu, ça me touche. Et c'est pour ça que j'ai trouvé important de rappeler que le burn-out concernait 1,5 fois plus les managers, même si Hervé Charles a tout à fait raison. Tout le monde peut être concerné et touché. Mais effectivement, les managers se mettent une pression supplémentaire pas possible.
Alors Léna, excuse-moi, Céline, tu es manager ou pas ?
Oui, je suis manager. D'accord. Et en fait, effectivement, c'est pour éviter à mon équipe d'avoir une surcharge de travail que je prenais ce travail.
Ça, c'est
fou. Donc, en fait, je suis tombée malade en octobre. On a déjà constaté le début du burn-out et j'ai voulu partir, mais bon, j'ai pas pu quitter mon équipe. C'était en CDD, donc c'est totalement ridicule. Donc, je suis tombée malade physiquement. Et on n'a rien trouvé de physique, évidemment, puisque c'était déjà un burn-out. Et en janvier, j'ai travaillé 80 heures la première semaine de janvier.
Mais alors Céline, si je peux me permettre, avant de donner la parole à Hervé Charles, tu as utilisé un mot qui est un grand classique chez les gens qui font des burn-out. Tu as dit « c'est ridicule ». Non, c'est pas ridicule. c'est malheureusement les gens qui font des burn-out. Ça n'a rien de ridicule. C'est un enchaînement. Et c'est, on se dit, et tu l'as très bien dit, tu voulais protéger ton équipe. Et donc, tu as travaillé 10 fois plus pour que ton équipe ne subisse pas. Donc, tu es quelqu'un, tu es une humaniste. Et malheureusement, les humanistes en entreprise finissent souvent en burn-out. Donc, le mot ridicule, chère Céline, s'il te plaît, ne l'utilise plus quand tu parles de toi. Vraiment. Oui, parce que c'est...
Merci. Très important d'entendre.
Mais bien sûr. Alors, Hervé Charles, toi, le témoignage de Céline, moi, je le trouve archétypique, tellement vrai, tellement triste. Toi, ça t'évoque quoi quand tu entends ça?
Je suis d'accord. Et tellement quotidien.
Ouais,
tellement
c'est
quotidien.
Ça.
Alors, deux points. Vous avez dit qu'il n'était pas reconnu comme maladie professionnelle. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises doivent remplir un document qui répertorie les risques. Ça s'appelle un DURP. Et aujourd'hui, le burn-out ne rentre pas dedans. Il n'est toujours pas dans les risques professionnels. Ça, c'est une catastrophe. Ce qu'il faut savoir sur le burn-out, il y a un mot qu'on entend souvent également. C'est quand vous avez un collaborateur qui dit « je vais y arriver ». Je vais y arriver. Ça, c'est un repère sonore. Enfin, nous, on le voit de manière très régulière. C'est « je vais y arriver ». Et en fait, vous voyez que son travail n'avance pas. Les piles s'entassent sur son bureau et vous avez la personne qui, de manière vraiment très, très régulière, vous dit « je vais y arriver, je vais y arriver ». Un matin, en fait, la seule chose qui va arriver, c'est qu'elle ne sera pas au bureau. Ça, c'est un repère. Moi, ce qui m'affole, c'est d'entendre 19 heures par jour. C'est ça qui m'affole. Céline, je suppose que vous êtes manager, vous l'avez dit, mais je suppose que vous avez un référent manager.
J'étais en direct avec le directeur général.
On est bien d'accord. Je dirais simplement qu'il ne fait pas son travail. On ne laisse pas travailler quelqu'un 19 heures.
Ah, mais il a réussi à me dire, donc j'ai travaillé 34 heures en deux jours. À 21 heures le deuxième jour, il m'a dit « ton travail, c'est de la merde ». Et je lui ai répondu « oui, c'est tout à fait normal ». Au bout de 34 heures, je suis épuisée, donc c'est mauvais ce que je fais. C'est normal.
Mais Hervé
Nous
Charles...
Nous sommes d'accord, c'est pas un manager. Jamais un manager ne dit ça à un collaborateur.
Non, mais effectivement, d'ailleurs, je lui interdisais de parler à mon équipe. Quand je suis arrivée, je l'ai entendu parler, je te dis, je t'interdis de parler à mon équipe. Et il m'a dit, je suis le boss, je fais, moi, je suis le manager, donc tu passes par moi. C'est tout.
Mais en fait, Hervé Charles, merci de mettre ça en avant, parce que, bien entendu, alors juste le titre de la room, c'est « Comment y échapper ?» Et Hervé Charles, tu mets le doigt sur, pour moi, le truc le plus important. J'ai écrit un article il y a, je crois, 3-4 ans, qui était sur l'idée de faire un permis à points pour les managers. Et que j'ai toujours dit qu'un manager qui a un collaborateur ou une collaboratrice qui fait un burn-out, c'est de sa responsabilité. Ne pas voir venir un manager. J'étais manager pendant 20 ans. Donc, j'écris des livres aujourd'hui, mais j'ai été manager pendant 20 ans d'équipe de plusieurs centaines de personnes. J'ai jamais eu un burn-out dans mes N-1, parce qu'à un moment, comme tu le dis très justement, Hervé Charles, c'est un manager qui laisse quelqu'un dans son équipe travailler 19 heures et n'agit pas, enfin, c'est criminel et il ne fait pas son métier. Et Hervé Charles, avant de te redonner la parole, je vais te raconter une anecdote qui ne va pas t'étonner, je sais, mais c'est pour l'audience, pour vous dire. Et après, on donnera bien sûr la parole à Neza. Neza, bienvenue sur le stage. Et si vous voulez monter sur le stage pour des témoignages ou des questions, vous êtes les bienvenus. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans. Il y a une femme qui m'écrit sur mon blog et qui dit « Voilà, je sors d'un burn-out de 1 an. » Un an. Et c'est un peu... Un gros burn-out, c'est la durée moyenne pour s'en remettre bien. Et elle me dit « Voilà, avant de faire mon burn-out, 2 semaines avant de faire mon burn-out, elle était dans l'événementiel, ça faisait quelques mois qu'elle travaillait entre 14 et 16 heures par jour, tous les jours, week-end compris. Elle va voir son manager. » Et lui dit, écoute, honnêtement, je sens que je suis au bout du bout, là, il me faudrait vraiment 3-4 jours de break. Et son manager de lui répondre, non mais écoute ma chérie, et le mot ma chérie est important quand même dans la suite de la phrase, non mais écoute ma chérie, tout va bien, tu vas quand même pas sauter par la fenêtre. Retourne travailler. Quelques jours plus tard, son burn-out arrive. Et c'est là où moi je suis, et j'ai été manager, donc je respecte, et le rôle de manager quand il est bien fait est essentiel, mais la responsabilité des managers dans burn-out est majeure. Hervé Charles, c'est un petit peu ce que tu voulais dire, non?
Oui, on est complètement d'accord. Alors nous, encore une fois, c'est les RH, et moi j'interviens vraiment au quotidien avec les équipes sur les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. Et sur ce que j'ai entendu avant, malheureusement, ça pourrait paraître surprenant, et malheureusement, ça ne l'est pas. Et ça m'exaspère, ça m'affole. Notamment un manager, et tu l'as dit, Gaël, et là je te rejoins. C'est quoi C'est quelqu'un qui va vous challenger, mais surtout qui va vous motiver, qui va vous donner envie. Expliquez-moi comment un manager peut vous donner envie en faisant travailler 19 heures. Comment il peut vous challenger, vous donner effectivement des objectifs et avancer et vous épauler. C'est impossible. C'est pas un manager, c'est un directeur général. Peut-être que c'est lui qui a créé l'entreprise. Félicitations à lui, c'est une réussite. Par contre, financièrement, bravo. Humainement, zéro.
Ouais, je suis d'accord. Et alors, s'il y a des managers dans l'audience qui veulent monter sur scène pour partager ça, parce que Hervé Charles, manager, parce que je rappelle souvent quand même, parce qu'on l'oublie, les managers sont eux-mêmes managés, et qu'il y a cette espèce de truc, tu sais, de pression descendante. Tu vois ce que je veux dire? C'est le DG va mettre une pression au N-1, puis au N-1, puis au N-1, et ça finit sur le collaborateur. Bref, tout le monde finit en burn-out.
Ça peut être ça, oui, effectivement, mais un manager qui manage bien, on est bien d'accord, c'est à lui à stopper la pression et à ne pas l'accepter pour lui-même déjà.
Exactement.
Donc encore moins la faire redescendre.
Alors,
pardon.
Non, je t'en prie. Alors, on va donner la parole d'abord à Léna qui voulait réagir, après à Céline et surtout à Neza. Après, enfin, pas surtout dans l'absolu, mais Neza, bienvenue à Sophie, bientôt à Kevin. Donc, Léna en premier, tu voulais réagir, Céline et Neza juste après pour un nouveau témoignage ou une question. Chère Léna.
Oui, très rapidement, je suis complètement d'accord avec vous. Effectivement, le rôle du manager est à redéfinir. Malheureusement, moi, ce que je constate sur le terrain, c'est que la plupart des managers ne sont pas formés justement au management et ne savent pas comment appréhender les relations avec leurs collaborateurs. Et je voulais dire aussi que souvent, les personnes qui font un burn-out, alors même si effectivement il y a cette responsabilité-là du manager, il y a aussi toutes ces injonctions inconscientes qu'elles se disent. Je dois être un super-héros, en gros. Je dois terminer ces dossiers à temps. Je dois être super efficace. Je ne pars pas avant
d'avoir... Le culte de la perfection, Léna. Le culte de la perfection, c'est horrible, bien sûr. Et je t'ai coupé. Je suis désolé, mais j'ai... Pardon,
Léna. J'avais terminé.
Donc, je t'ai coupé au moment où tu terminais. Donc, je n'ai pas été un énorme goujat. Merci,
non,
Malena.
Pas du tout.
Alors Céline, juste un petit mot avant de donner la parole à Neza et bienvenue à Sophie, Kevin et Laurent. Céline, je t'en prie.
Alors déjà, je vous remercie d'avoir rappelé ça, le culte de la personnalité du super-héros, parce que je travaille dessus pour plus me faire embobiner. Et juste, moi, avant de partir de cette entreprise, j'ai signalé à la DRH 3 possibilités de burn-out dans mes équipes.
Tu sais quoi, Céline? Alors, tu as un petit cotillon, donc tu es nouvelle sur Clubhouse. Donc, merci d'être montée, parce qu'il y a beaucoup de petits cotillons qui n'osent pas monter sur le stage. Donc, super, et c'était incroyablement intéressant. Et merci, parce que si tu as connu un burn-out, et c'est une recommandation que je fais à beaucoup de DRH, donc là, je parle sous le contrôle d'Hervé Charles. Si tu n'es pas d'accord, Hervé Charles, tu auras le droit de me fouetter avec des orties fraîches. Avoir des gens qui ont fait des burn-out dans l'entreprise, c'est une richesse incroyable et c'est la meilleure des protections contre les burn-out, parce que on connaît, les gens qui ont fait un burn-out savent pourquoi ils l'ont fait et ils peuvent éviter à leurs collaborateurs. Mille merci pour ton témoignage, Céline, c'était juste topissime. Enfin, topissime. Pas du fait que tu aies fait un burn-out, mais c'était incroyablement intéressant pour l'audience. Merci beaucoup, Céline.
Et merci. Bienvenue
sur Clubhouse, en tout cas. Neza, je t'en prie, la parole est à toi.
Merci Gaël, bonsoir tout le monde. Merci Céline pour ta sincérité et ta franchise et ta générosité dans le partage, parce que pas tout le monde ose, on va dire, se dévoiler comme ça devant des inconnus et partager des choses aussi importantes. Donc, ce que je voulais déjà réagir par rapport à la discussion que tu as eu, Gaël, avec Hervé, c'est qu'on parle de manager, mais pas tout le monde est manager. C'est pas parce que j'ai une responsabilité d'une équipe. Je suis le boss. La plupart, c'est des boss. Après, le manager, c'est un niveau. Et puis, le leader, c'est le niveau de dessus. Et c'est ça où très souvent, on fait pas le distinguo. Et très souvent, on confie des responsabilités des équipes à des personnes, non pas parce qu'ils ont des qualités pour l'idée des gens, pour les motiver, etc., mais parce qu'ils sont bons, c'est des bosseurs, etc. Deuxième point, tu as parlé par rapport à la pression qui se cascade en haut. Et effectivement, des fois, on a des managers de bonne foi, humanistes, comme Céline, etc. Mais à force de subir la pression d'en haut, soit ils finissent eux-mêmes par faire un burn-out parce qu'ils sont humanistes, soit ils finissent par suivre le système et cascader la même pression sur leurs équipes et avoir par la suite des burn-out dans leurs équipes. Troisième point pour lequel je voulais intervenir, moi je travaille en tant que senior manager customer care dans une grande multinationale américaine et je voulais partager avec vous l'avant et après Covid. Avant Covid, quand quelqu'un disait « j'en peux plus », etc., il lançait une alerte à son manager, généralement ce qu'on entendait, mais tu n'es pas bien organisé, mais pourquoi tu as tant de travail ? Et on lui rajoute davantage de tâches pour lui lister, pour lui montrer que c'est un idiot, que c'est quelqu'un de désorganisé, et c'est pour ça qu'il finit par un burn-out.
Alors, Neza, excuse-moi, tu travailles en France ou au Maroc ?
Au Maroc.
D'accord, donc alors, tu sais quoi, Neza, c'est incroyable parce que ce que tu dis, j'aurais mis mes deux mains à couper, tu étais dans une entreprise en France. Donc au Maroc, avec une entreprise américaine, c'est la même chose en fait.
Pardon, désolé, j'ai reçu.
J'ai bien vu. Non, ce que je disais, c'est merci de préciser que tu es au Maroc parce que souvent, nous les Français, et je parle sous le contrôle de Léna et Hervé Charles, ils réagiront à ton témoignage. Ben, visiblement, ce n'est pas franco-français. En fait, au Maroc, c'est la même chose.
Ah non, c'est la même chose. Et moi, j'ai 21 ans d'expérience au monde actif, dans 3 ans multinationales et le reste en entreprise marocaine. Et je peux vous dire, c'est un peu de... It's the same. Et c'est juste qu'en multinationale, le niveau de stress, il est encore x2, x3. C'est-à-dire que, en plus, en culture américaine, j'ai travaillé avec des DG qui étaient français, des présidents marocains, français, etc. Mais quand j'ai travaillé avec des Américains, c'est encore multiplié. Ça dépend encore une fois du boss qu'on a, est-ce qu'il est plus ou moins humaniste ou pas, etc. Rien que pour la petite anecdote, moi je me rappelle ma première année quand je rejoins cette multinationale, mon vice-président il m'a dit « Neza, t'es trop bienveillante ». C'est bien d'être bienveillant, c'est à la mode, mais t'es trop bienveillante.
Mais ça, Neza, moi je suis le créateur du concept de management bienveillant. Et malheureusement, ouais, j'entends trop souvent ça et que ton patron t'ait dit « Non mais dis donc Neza, t'es trop bienveillante. » Comme si c'était un défaut. C'est ça, tu l'as ressenti comme si c'était un défaut.
Exactement. Il me disait « Mais c'est bien de le faire, mais t'en fais trop. » Pourquoi ? Parce que j'étais dans une organisation finance et l'organisation finance, l'image des profils, c'est des gens plutôt dans la hiérarchie, très stricts, un peu dans…
Bah, c'est le loup de Wall Street, schématiquement. C'est le loup de Wall Street, un peu. Je ne sais pas si tu as vu le film, mais c'est un peu ça.
Mais ce qui dérangeait mon boss, c'est qu'il n'était pas people person. Il n'avait pas ce côté humaniste. Et à un certain moment, et je l'appelle boss, parce que pour moi, il n'était pas un leader, c'est à un certain moment, c'est comme si je miroitais quelque chose qu'il n'avait pas, et ça faisait beaucoup de friction entre nous deux, malgré le fait que les résultats là, etc. Il y avait ce côté people qui vraiment, ça l'enrageait. Et j'ai fini par trouver une opportunité dans cette même multinationale et ailleurs avec d'autres personnes qui sont aussi dans la bienveillance, etc. Mais n'empêche, le burn-out, ce que je voulais partager, le point auquel je voulais réagir, le burn-out avant Covid et après Covid, la perception a complètement changé. Après Covid, je peux vous dire que même le nombre de communications bienveillante sur le bien-être des gens, sur le fait qu'on doit prendre de soin de la santé mentale, le nombre de programmes, d'applications gratuites qui ont été mises à disposition. On a même fait des sessions, et on a même ramené des psychologues pour des sessions, on va dire Zoom, etc., pour que les gens puissent parler et tout. Et il y a même des programmes, par exemple, je prends du site de Casablanca, où on a carrément pris en charge la première séance avec un psychothérapeute ou un psychologue pour encourager les gens et leur montrer que la sécu sociale pourrait rembourser, etc., les autres frais, parce qu'il y avait beaucoup de awareness to raise on this topic. Et on a commencé à faire beaucoup d'actions dans ce sens. Donc, je pense, à mon sens, avant nos VP, nos présidents, etc., ils se baladaient d'un voyage à l'autre, etc. Quand tout le monde s'est confiné quelque part, tout le monde est devenu kiff-kiff. Tout le monde a subi quelque part le même stress, trop de Zoom call, trop de Teams, trop de meetings, et tout le monde était dans le contrôle. Et au final, je pense qu'il y a même du burn-out qui est arrivé même en haut, même si ce sera toujours du non-dit, et qui fait que d'en haut, et a été cascadée une nouvelle culture. We need to care about people. On doit prendre soin de nos gars, on doit faire attention, etc. Même si, bien évidemment, ça ne change pas la pression par rapport aux résultats, mais j'ai senti que le Covid, il y a eu un avant et un après dans l'entreprise où je travaille.
Ben moi, je suis très d'accord avec toi, mais au-delà de ton entreprise, je pense que c'est général. Alors là, Léna, tu me pardonneras, mais on va faire l'inverse. Pour cette fois, je vais donner la parole d'abord à Hervé Charles. Moi, effectivement, j'ai le sentiment que le burn-out, et on ne parle pas du bore-out et encore moins du brown-out, mais j'ai le sentiment que la pandémie a eu un impact de dingue sur la prise de conscience de ces problématiques-là en entreprise. Hervé Charles, toi RH et après Léna, bien entendu, est-ce que tu le ressens ?
Alors oui, bien évidemment. C'est ce que je dis tout à l'heure en préambule, c'est que ça l'a mis sur le devant, on en a pris un peu plus conscience avec ce climat anxiogène. Le côté anxiogène de la vie privée, mais aussi dans l'entreprise, les rapports avec les collaborateurs et les collègues. J'aurais juste rajouté une chose, si tu permets, Gaëlle, juste avant. Effectivement, on a l'exemple du Maroc, mais ce n'est pas franco-français, je te l'ai déjà dit. Je suis belge, mais je me soigne et breton, donc je ne suis pas français.
Tu es belge et breton, j'ai envie de dire que c'est un beau combo, cher Hervé.
Mais je me soigne, surtout pour le côté belge. Non, je plaisante s'il y a des Belges avec moi. Non, sérieusement, ce n'est absolument pas franco-français. Et pour travailler avec des entreprises qui sont notamment anglo-saxonnes et pas forcément américaines, sincèrement, on a exactement les mêmes problématiques. Pour revenir à la question, effectivement, de la situation du Covid, est-ce que ça l'a mis sur le devant ? Oui, parce qu'en fait, on a vu beaucoup de défaillances chez les collaborateurs. Donc, on s'est dit finalement que c'est peut-être important. Et puis, un deuxième point, mais ça ferait sujet d'un long débat, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, depuis quelques temps, ont du mal à recruter. Et prendre soin de ses collaborateurs, c'est devenu très mode, très tendance. Et aujourd'hui, on appelle ça la marque employeur par le marketing RH. Faut absolument donner, entre guillemets, excusez-moi l'expression, une belle virginité à nos collaborateurs. Donc oui, pour certaines entreprises, pour en connaître, il y a un vrai et un réel intérêt à prendre soin de ses collaborateurs, parce qu'il y a une obligation juridique, mais aussi pour certains, c'est se donner une belle carte de virginité pour attirer les collaborateurs.
Hervé Charles, alors là par contre, je vais être fâché contre toi. Est-ce que c'est mode ou est-ce que c'est mais je sais mais ou alors est-ce que c'est mode ou est-ce que c'est le seul moyen que les entreprises ont pour attirer des talents et surtout pour les garder, parce que moi j'ai le sentiment que les jeunes générations, une entreprise qui leur plaît pas en termes de bien-être, ils se barrent et vont chercher un boulot ailleurs.
Mais c'est exactement ça, c'est donner du sens.
Mais donc c'est pas une mode,
c'est la motivation.
C'est pas une mode, donc
ça devient une mode aujourd'hui, parce que sincèrement, je ne suis pas là pour faire ma promotion.
Non, parce que pour moi, mode Hervé Charles, ça veut dire éphémère.
Eh bien, ça sera éphémère. On en reparlera, mais ça sera éphémère. Moi, je suis parti d'une génération des années 90, début 2000, où je suis rentré, où effectivement, c'était tenu par des gestionnaires. Et on me disait, un entretien d'embauche, il y en a 15 derrière. Tu n'es pas d'accord sur les conditions, tu dégages.
Bah, on a vécu la même période, Hervé Charles, nous sommes tous les deux vieux. Et on t'a dit, si t'es pas content, il y en a 10 qui veulent ton boulot, donc dégage.
C'est exactement ça. Sauf qu'aujourd'hui, ben, les jeunes, effectivement, ils ont un peu plus de choix. Et surtout, ils cherchent un peu plus de sens. Ils cherchent du sens dans leur travail pour effectivement, éviter le burn-out, qui est la désillusion. On ne va pas se retrouver. Ça, c'est un clin d'œil hein, quand même. On ne va pas se retrouver dans son travail. Mais sincèrement, je pense que ça sera éphémère.
Alors,
on commence déjà à avoir des retours sur ça.
Je m'inscris
en faux.
C'est
un autre débat, je pense. Je pense que c'est un autre
débat. Bien sûr, c'est un autre débat, mais peut-être que ça sera un sujet d'une autre roue. Mais avant de donner la parole à Léna pour réagir par rapport au témoignage de Neza, quand même, pour rappel, Hervé Charles, on est de la même génération et nous, on a connu le chômage de masse. Pour la première fois depuis 30 ans en France, on est en train de parler de la possibilité du plein emploi sous 2 ans. Donc la pression, elle va être plus être sur les entreprises pour s'occuper du bien-être que l'inverse. Donc le pouvoir va être du côté des salariés, puisque toi comme moi, on est arrivé sur le marché du travail à un moment où il y avait un chômage de masse et les entreprises nous faisaient bien comprendre. Eh, dis donc, si t'es pas content de travailler 90 heures par semaine, mais dégage, il y en a 80 qui veulent ton boulot. Et ça va être l'inverse maintenant. S'il y a le plein emploi en France, tu crois pas que cette notion de plein emploi potentiel... Écoute, Hervé Charles, c'est ce que je te propose, on en reparle dans 2 ans si jamais le plein emploi revient, pour voir l'impact.
Alors écoute, je te propose qu'on en reparle dans 1 an, tu vois.
Ouais, un an, ça me semble pas mal.
Dans 1 an, c'est pas mal. Et si je prends tout le monde à témoin, si j'ai tort, je t'offre le champagne. Ça va ?
Alors, les amis, oh oh ! Non, tu
on est témoins.
Bah, bien sûr, bah, j'espère bien. Non seulement c'est...
Même pas peur.
Dans un an, on ne sera pas sur Clubhouse, on ne pourra pas vérifier. Tout
mais bien sûr. Alors justement, je vais faire un petit refresh. Vous êtes sur Happy Work, Burnout, Burnout, comment y échapper ? Donc, si vous voulez avoir le résultat du pari fait entre Hervé Charles et moi je rajoute un truc, Hervé Charles, si jamais... Tu as raison, je t'invite dans la plus grande table de Paris, histoire d'avoir un joli déjeuner. Et on va donner la parole à Léna. Donc oui, abonnez-vous à Happy Work. Donc dans un an, on fait le point. Donc nous sommes exactement le 6 août, donc le 6 août 2022, résultat du pari. Et honnêtement, Hervé Charles, on ne va pas se mentir, je sais que toi comme moi, j'espère que tu as tort et tu espères que j'ai raison parce que...
Nous sommes d'accord.
Ben voilà, bien sûr.
J'adore le champagne, donc ça me va très bien.
Léna, alors par rapport au témoignage de Neza qui était passionnant, c'est quoi ta réaction ?
Alors justement, en deux points, très beau témoignage de Neza que je confirme, parce que moi je suis intervenue donc, en tant que coach pendant le Covid auprès des entreprises pour accompagner leurs collaborateurs à traverser cette période et à les préparer également au retour sur site. Et puis ensuite pour le télétravail, etc. Donc moi, je confirme effectivement que ça a été une période très difficile et qu'il y a eu, j'ai trouvé, une espèce de libération de la parole, c'est-à-dire que on est passé d'un sujet assez tabou, je trouve, hein, le burn-out.
Pas assez tabou, totalement tabou, Léna. Avant la pandémie.
Je prends toujours des pincettes, j'aime
bien. Oui, mais c'est parce que tu es mesurée, je ne le suis pas, c'est pour ça qu'on est complémentaires. Il était totalement tabou, on ne va pas se mentir.
Je suis d'accord. Et on est passé justement à une espèce de libération, c'est-à-dire que, bon, je ne sais pas si tout le monde ose en parler sur la place publique, mais en tout cas, c'est moins honteux, si je peux utiliser ce mot-là, de dire qu'on a fait un burn-out, et c'est très bien en ce sens.
Mais c'est pour ça que le témoignage de Céline, il défonce, enfin, oh pardon,
exactement,
j'ai utilisé un mot de gêne,
très,
de
très
jeune. Mais non, mais c'est important, non, mais vraiment, moi je suis reconnaissant de gens comme Céline, c'est important d'en parler, et t'as raison, la parole se libère un peu, enfin.
Et c'est très, très bien. Et par contre, moi, je te rejoins par rapport au pari et je milite sur ça. Désolée, Hervé Charles. Moi, je milite pour ça, pour que les entreprises vraiment développent l'expérience candidat et aussi l'expérience collaborateur. Et parce que je suis aussi dans le recrutement, j'espère vraiment qu'il ne s'agit pas d'une mode et que ça va aller de façon croissante, parce que je pense que c'est vraiment très important, non seulement pour le recrutement, mais pour le bien-être des salariés.
Mais tu sais, Léna, pourquoi je sais qu'Hervé Charles va pas être son pari ? Et que donc Hervé Charles, vous nous invitez non seulement à boire du champagne, mais sur une grande table. Il y a 7 ans, quand j'ai créé le concept de management bienveillant, la première réaction des gens, donc c'était dans mon bouquin « Mon boss est nul, mais je le soigne », la majorité sur LinkedIn disait « Non, mais c'est n'importe quoi » et compagnie. Sauf que ce bouquin a cartonné. 2 ans plus tard, les gens disaient « Non, mais c'est une mode, c'est n'importe quoi ». Aujourd'hui, après la pandémie, personne ne remet en question l'importance du management bienveillant. Et je ne sais plus quel auteur disait ça. Au début, on se moque de toi. Après, on dit que c'est une mode. Et après, c'est une évidence. Mais encore une fois, Hervé Charles a raison. Enfin, il a raison. On verra. Et là, on n'est pas pour clash.
Non, j'ai raison.
Non, mais toi, ce que je veux dire, c'est malheureusement, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Et il a une opinion qui est hyper intéressante. J'espère que Hervé Charles a tort. Et je sais en plus que Hervé Charles espère lui-même qu'il a tort, ce qui est quand même très pervers hein, quand même dans son cerveau. Mais ça, ça doit être ton côté belge qui ressort.
Non, j'aurais dit plutôt le côté breton. Non,
tu as raison.
Sincèrement, oui, j'espère avoir tort. Bien évidemment que c'est important. Mais il y a quand même un élément qui me paraît important sur ce que j'ai entendu. C'est attention à cette notion de burn-out, pour revenir sur le sujet. C'est qu'aujourd'hui, un navré, hein, pour le voir au quotidien, c'est que burn-out peut être employé à toutes les sauces. Sincèrement, aujourd'hui, cette notion de burn-out, elle peut être galvaudée. Et il y a des gens qu'on signifie en burn-out alors qu'ils ne le sont absolument pas. Il y a ça aussi qui est vraiment... Enfin, ça me paraît important de le préciser.
Bien sûr, Hervé Charles. Mais c'est pour ça, Hervé Charles, c'est pour ça que le témoignage de Céline était très intéressant, dans le sens où un burn-out, c'est une pathologie. C'est-à-dire qu'il faut être suivi par un médecin. Et c'est pour ça que je posais la question à Céline d'être suivi par un psy et compagnie, parce qu'un médecin généraliste, enfin, et avec tout le respect, mon père était médecin, donc avec tout le respect que j'ai pour les médecins généralistes, c'est pas un médecin généraliste qui peut accompagner un burn-out. On va peut-être pas passer trop de temps, parce que, alors les amis, moi je suis un hystérique des horaires, donc dans 5 minutes, je vais fermer les mains levées, donc je dis bienvenue à Issa, à Laurent, à Kevin, et on va donner la parole à Sophie. Alors Sophie, est-ce que tu as un témoignage ou une question? J'allais dire, ou un coup de gueule. Non, pas de coup de gueule, on est hyper pisse par ici. Sophie, tu as la parole.
Merci beaucoup. Je n'ai pas de coup de gueule. Au contraire, je suis tout à fait ravie de participer à cette room que je trouve passionnante. Et moi aussi, je voudrais dire à Céline que son témoignage était tout à fait poignant. Alors, je vais témoigner, mais pas du tout en tant que victime d'un burn-out. Je suis à la fois psychologue et coach de dirigeants. Et donc, des personnes qui font des burn-out, j'en vois après en tant que thérapeute et j'en vois avant en tant que coach. Je voulais juste dire qu'effectivement, le burn-out, pour l'instant, n'est pas recensé comme une pathologie en tant que telle. Ça fait partie des questions qu'on se pose beaucoup hein, dans la communauté psy.
Mais toi, en tant que thérapeute, est-ce que ça te choque que ça ne soit
non,
pas
ça ne me choque pas, en fait.
Ah bon ?
Ça ne me choque pas pour une seule raison, c'est que je vois et j'incite mes interlocuteurs à voir le burn-out comme un processus. La pathologie, c'est le résultat de ce processus. Et ce qui est important, c'est de reconnaître le processus avant qu'il arrive au point de non-retour, c'est-à-dire au point que les uns et les autres décrivaient à un moment donné. Par exemple, Gaëlle, tu disais, tout d'un coup, on ne peut plus se lever le matin. Ça, c'est quand le point de non-retour est dépassé.
Oui, mais Sophie, excuse-moi, pardon de t'interrompre, mais en tant que thérapeute, je suis très surpris. Mais vraiment, et je le dis, et j'ai envie vraiment que tu développes sur le sujet, que toi, oui. En tant que thérapeute, tu dises « c'est pas une maladie du travail », alors qu'il n'y a que le travail qui génère un burn-out.
Oui, absolument, mais ça génère le processus. Vraiment, je crois que il est utile de distinguer le processus et le résultat du processus.
Je comprends, ce que tu dis, c'est que quand tu es dans un processus, potentiellement, et ça rejoint ce que disait Neza et d'une certaine manière Céline, si le processus est amorcé, on peut l'arrêter s'il y a un bon management.
Alors, on peut l'arrêter s'il y a un bon management. On peut l'arrêter aussi si quelqu'un sait le reconnaître. Par exemple, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des patients en cours de thérapie pour tout à fait autre chose. Et puis, comme je les voyais régulièrement, par exemple, toutes les semaines, je pouvais repérer les premiers signes d'un burn-out. Et ça... ça s'est traduit par un arrêt de travail, puisque là, je les envoyais chez leur médecin traitant, mais en leur disant que dire à leur médecin traitant, quels symptômes signaler à leur médecin traitant, et le médecin traitant les arrêtait alors qu'il était encore temps. Ça peut aussi se parer lorsque, comme Hervé Charles le signalait, eh bien, le manager est un manager formé et peut repérer les risques psychosociaux qui font que, eh bien, on sait qu'il y a quelqu'un qui est à risque de faire un burn-out ou que dans une unité de travail donnée, il y a plusieurs personnes qui sont à risque de faire un burn-out.
Sophie, j'ai une question. Excuse-moi, je t'interromps parce que j'ai une vraie... Oui. Pardon, pardon, mais ça c'est mon côté, je suis mal poli. Pardon Sophie.
Je t'en prie.
J'ai une vraie question. Est-ce que tu ne penses pas... Honnêtement, moi j'ai été manager pendant 20 ans. Je n'ai pas eu un burn-out
aussi,
dans mes équipes.
Aussi.
Ah bah génial.
Je n'ai pas toujours été psy.
Est-ce qu'à un moment, tu ne penses pas que si un manager, on lui explique les signes, si on lui explique ce qu'il ne faut pas faire... Moi, le témoignage de Céline m'a bouleversé parce que je me dis, mais le manager est responsable du burn-out de Céline.
Absolument.
On est d'accord. Et donc, il faut qu'elle arrête de culpabiliser. Donc, Sophie, en tant que psychothérapeute, merci de dire à Céline, Céline, arrête de culpabiliser. Non, mais c'est vrai, c'est important, je plaisante. Mais c'est effrayant, ce genre de situation.
Alors, non seulement je suis d'accord avec toi, Gaëlle, mais je dirais même à Céline que je crois que c'est elle qui le signalait d'ailleurs, et je suis parfaitement d'accord. Quand on amorce un processus de burn-out, eh bien, on ne le voit pas.
Ah, mais soi-même, mais bien sûr, parce qu'en fait, la personne... Mais Céline l'a très bien dit, j'imagine que tu as entendu, Sophie.
Oui.
C'est limite si Céline n'était pas en culpabilisation, c'est là, en culpabilisation personnelle, mais c'est pour ça qu'il faut rejoindre le burn-out avec le harcèlement moral, le harcèlement sexuel ou les victimes. Parce qu'on parle de victimes, et moi, avec le burn-out, je parle de victimes, et les gens qui sont victimes de ça culpabilisent. Et c'est fou.
Tout à fait. Mais je suis entièrement d'accord avec tout ça. Et effectivement, quand on est en train de faire un burn-out, eh bien, on ne s'en rend absolument pas compte.
C'est tellement vrai.
Voilà. Alors, je voudrais juste terminer, puis je ne vais pas monopoliser la parole, je voudrais juste terminer en disant le burn-out, c'est un processus qui, lorsque on le laisse aller trop loin, aboutit effectivement à une ou à des pathologies. Et les pathologies les plus courantes, c'est une dépression, mais une dépression extrêmement sévère, et ou un stress post-traumatique. Et moi, en tant que thérapeute, quand je reçois des patients qui sont en arrêt de travail parce qu'ils sont en burn-out et que là, vraiment, ils ne peuvent même plus reprendre le travail, eh bien, moi, je les soigne pour dépression ou pour stress post-traumatique ou pour les deux. Et c'est en ce sens que je disais tout à l'heure que ça ne me gêne pas que le burn-out ne soit pas reconnu comme une pathologie. Par contre, il importe qu'il soit reconnu comme un processus et comme un processus qui, effectivement, quand on parle de travail, est dû au travail. Mais je voudrais signaler, et j'en terminerai là, le burn-out, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ce qu'on pensait au départ. Au départ, c'était, on l'avait repéré dans les professions de santé. C'est-à-dire les professions, en fait, très engagées.
Où il n'y avait pas d'horaire, où il y a un engagement, ce qu'on a très bien vu pendant la pandémie, d'ailleurs.
Les gens se donnent à fond, ils croient profondément en ce qu'ils font, etc. Et les premières populations chez qui on a identifié le burn-out, ce sont les professions de santé. Ensuite, on l'a repéré chez les managers, et spécialement ceux qui adorent leur métier, et spécialement des créateurs d'entreprises, etc. Et puis, on s'est aperçu progressivement au fil des années que ça touchait beaucoup plus de monde que ça. Et beaucoup plus récemment, on s'est rendu compte que ça ne touchait pas que le travail. Et on a pu parler, par exemple, du burn-out des mères de famille qui ont la charge psychologique.
Ben ouais, je viens de recevoir un DM de quelqu'un qui me dit « le burn-out des parents existe ».
Oui, absolument. Absolument, et il est reconnu maintenant. Et encore une fois, c'est un processus qui doit être reconnu en tant que tel. Et c'est pour ça que ça ne me gêne pas qu'il ne soit pas une pathologie. Parce que ce qu'on traite, c'est autre chose.
Alors Sophie, toi, mais ton témoignage est juste génial ici. Mais vraiment, mille merci.
Je
viens de t'envoyer un DM pour te dire, viens toutes les semaines sur Happy Work, parce que ton témoignage... mais vraiment, c'est incroyablement intéressant. Et c'est intéressant, mais... Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je vais demander à Hervé Charles et à Léna leur opinion. Parce que quand tu dis que ce n'est pas une pathologie, pour moi, l'importance... Non, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie du travail. L'importance, un jour, qu'on reconnaisse le burn-out comme maladie du travail, c'est pour enfin reconnaître la responsabilité des managers dans le burn-out. Donc, c'est plus une responsabilité d'entreprise. Donc, moi, je le vois plus d'un côté... Tu vois, alors je vois Sophie que tu as réouvert ton micro, mais je ne vais pas te donner la parole parce que c'est Hervé Charles et Léna qui vont la prendre. Bien sûr, je plaisante, tu vas pouvoir répondre.
C'est la responsabilité de l'entreprise et c'est pas pour ça que ça doit être une pathologie. Je suis désolée, mais je vais devoir vous laisser là, j'ai un patient qui m'attend.
Eh bien Sophie,
ça a été passionnant, merci beaucoup pour cette room.
Ben, mille merci pour notre intervention et comme tu pars, on va pouvoir dire plein de trucs où on n'est pas d'accord avec toi, j'adore. Et bienvenue la semaine prochaine à 18h au même endroit. Salut Sophie, bonne soirée.
Salut, bonne soirée à tous, au revoir.
Alors Léna, Toi, t'en penses quoi? Alors, ce qu'a dit Sophie est passionnant, honnêtement. Enfin, moi, ça, je trouve ça passionnant, mais pathologie ou pas pathologie? Responsabilité du manager ou pas responsabilité du manager?
Tout à fait. Très intéressant ce qu'a dit Sophie. Moi, je voulais juste rappeler les facteurs de risque. Trois facteurs qui sont liés au travail. L'intensité, l'organisation du travail, les relations et les conflits de valeurs. Donc, je voulais rappeler que quand même, tout réside dans le travail. Après, pathologie ou pas pathologie, c'est une terminologie qu'il faudrait vraiment définir. C'est vrai que ça n'a pas...
Ça a une conséquence sur l'indemnisation, ma chère Léna, quand même.
Exactement.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Tu vois, c'est pas anodin de ce point de vue-là, parce que, bien sûr, t'as raison, c'est dans l'absolu, d'un point de vue terminologie, on s'en moque, mais en termes d'indemnisation, de reconnaissance et de réintégration à l'entreprise, parce que beaucoup de gens qui ont fait un burn-out, ben, ils ont la double peine. Quand ils reviennent, on leur fait bien sentir, et dis donc, t'es pas très solide quand même.
Tout à fait, tout à fait. Il y a une perte d'efficacité, une diminution de l'accomplissement personnel au travail, une perte de motivation, d'estime de soi, d'intérêt, de concentration. C'est vrai que le processus de dégradation du rapport au travail, il est vraiment important. Donc, effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là.
Et toi, Hervé Charles, alors moi, ce que nous a dit cette psy est juste fascinant. C'est quoi ton regard là-dessus? Est-ce qu'il faut pathologie, pas pathologie, maladie du travail, pas maladie du travail? Est-ce que c'est un sujet ou pas un sujet de ton point de vue RH?
C'est un vrai sujet. Déjà, effectivement, ne pas faire reconnaître comme une maladie professionnelle, pour moi, c'est une vraie carence.
Hervé Charles, tu veux dire que tu es d'accord avec moi?
Absolument.
Il faut que tu arrêtes la drogue, Hervé Charles, c'est urgent.
Je me suis mis au sous-chaîne, pardon. Non, simplement, c'est le premier point. Parce que, alors, si on est d'un point de vue juridique, il y a un article qui dit 41-21, alinéa 1 du Code du travail, qui dit que la responsabilité de l'employeur, effectivement, il doit veiller à la sécurité physique, morale, mentale, etc., de chaque collaborateur, sinon il en est responsable. Et tant qu'il n'est pas inscrit, effectivement, dans ses maladies professionnelles, bon, entre guillemets, si je fais un burn-out, aujourd'hui, l'employeur pourra le rechercher, il va falloir montrer qu'il y a eu du harcèlement, qu'il y a eu de la mise à l'écart ou ce genre d'éléments. Donc c'est un peu compliqué. Et je pense vraiment que ça doit être reconnu et après, derrière, ça engendrera plus d'accompagnement, plus de facilité de la part des collaborateurs. Et surtout, ça changera le regard de la part aussi des confrères, des collègues.
Ouais, c'est vrai. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que le burn-out, c'est un peu moins tabou grâce à la pandémie. C'est horrible de dire grâce à la pandémie, parce que je crois que c'est Léna, tu le rappelais, c'est 44% des salariés sont en détresse psychologique. Enfin, peser ces mots, détresse psychologique. On est en France, les amis. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où globalement tout va bien et on parle de détresse psychologique. Alors, on arrive vers la fin de la room, donc il va falloir que les prochains intervenants, donc Kevin, Laurent et Yvan, on fasse très court, parce que je le rappelle, je suis un hystérique des horaires, donc je ne fais pas une room de 2 heures quand j'annonce 1 heure. Donc, mon cher Kevin, est-ce que tu es là?
Oui, je suis là, Gaël.
Eh bien, nous t'écoutons.
Alors, bonjour à tous. Moi, ce serait plus pour vous parler d'un témoignage. C'était il y a un certain temps. Je vais faire très rapide, mais je vais juste situer pour que tout le monde puisse bien visualiser. J'ai pris un poste à l'époque de manager, j'avais 21 ans, et je suis tombé dans une structure où le responsable du manager avait une façon de manager par la peur. Et moi, qui étais assez jeune, j'étais vite confronté à ce manager-là, qui a essayé par plusieurs reprises des intimidations, des fois limite physiques, pour montrer qu'il était présent et qu'il ne fallait pas trop...
Attends, excuse-moi Kevin, physique, oui. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'à certains moments, le matin, quand on arrivait, il y avait une poignée de main qui était assez virulente, voire très très virulente. Il y avait des mamans où quand ils passaient dans les rayons et que j'étais là à essayer de manager mon équipe, il y avait des coups d'épaule assez conséquents qui étaient faits. Voilà, tout ce type de choses-là.
Ouais, donc vraiment un truc d'engagement physique où tu te disais, tu vas finir par t'en prendre une. Mais alors, et bien entendu, tu ne donnes pas du tout la marque dans laquelle tu travailles.
Absolument pas.
Mais la grande distribution a une réputation d'un management assez hardcore quand même.
Voilà. Et moi, ce que j'avais fait le constat en arrivant, c'est quand même... je suis arrivé pour manager 25 personnes. Et dès mon arrivée, à ma prise de poste, il y avait déjà 3 personnes qui étaient en arrêt maladie. Donc, j'avais la manie toujours de prendre déjà l'état des lieux. Et je prenais chaque collaborateur pas à pas. Et je faisais des points individuels avec chacun d'entre eux pour voir éventuellement s'ils avaient des craintes, s'ils avaient éventuellement, voilà, pour faire éventuellement une montée en compétences ou des évolutions, et pour prendre aussi l'individu avec toute sa complexité. Et plusieurs fois, on m'a fait la réflexion qu'effectivement, il ne fallait pas que ça fonctionne comme ça, parce que l'équipe était là pour faire ce qu'on lui ordonne, je mets entre guillemets parce que ce n'est pas mes mots, et que par conséquent, les mises au point ou les petites réunions individuelles ou de groupe que je pouvais effectuer pour éventuellement déceler certains blocages n'étaient pas forcément bien vus, parce que ça faisait perdre du temps et donc du chiffre d'affaires. Et j'ai expliqué très simplement que le moteur d'une structure, c'est son équipe, mais que si l'équipe dysfonctionne, ça risque de mal tourner pour le chiffre. Et vu qu'ils aimaient bien parler de chiffres, je leur disais que tout simplement, ils avaient déjà 3 personnes en arrêt et que je pouvais présupposer, entre guillemets, que c'était dû à certaines choses et que si ça continuait dans ce sens-là, ça allait être beaucoup plus en termes de chiffres. C'était assez, assez perturbant.
Mais en fait, Kevin, tu poses une question... et je suis désolé de te couper, Kevin, mais c'est vrai qu'on arrive vers la fin de la roue, mais tu poses une question et je vais... rebondir et poser la question d'abord à Léna et à Hervé Charles. Je ne me rappelle plus lequel des deux j'ai fait parler en premier, mais donc dans le doute, je vais être galant. Il y a quelqu'un dans la room qui pose une question qui est en rapport un petit peu à ce que tu dis, Kevin. Est-ce que quand on est indépendant, on a moins cette pression de l'entreprise et que certaines entreprises, la grande distribution en faisant partie, la culture d'entreprise peut in fine favoriser un comportement managérial qui va pousser au burn-out ? Léna, est-ce que tu as constaté ça, toi, en tant que coach, qu'il y a certains secteurs, c'est chic de foutre la pression sur les gens?
Oui, complètement. J'ai remarqué que dans certains secteurs, effectivement, comme tu viens de le dire, la pression est plus forte et les méthodes de management sont...
hardcore. Plus... je crois que c'est le mot que tu cherches. Hardcore.
Voilà, je cherchais mes mots et par rapport à ta question au fait d'être indépendant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a des injonctions inconscientes que beaucoup d'indépendants se donnent à eux-mêmes et il y a des indépendants qui, malgré le fait qu'ils peuvent organiser leur travail pour la plupart comme ils le souhaitent, justement se surchargent et se mettent une pression pas possible. Et aussi, il y a les clients avec lesquels il faut travailler qui peuvent aussi parfois y mettre un peu aussi du leurre là-dedans. Mais c'est un dosage effectivement à trouver quand on est indépendant. Mais par rapport à la culture d'entreprise, ça, c'est effectivement quelque chose que j'ai pu constater.
Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Léna, et je vais poser une question à Hervé pour savoir s'il est d'accord avec une phrase que je vais lui dire. Et peut-être, Hervé Charles, qu'on va être d'accord une deuxième fois. En fait, quand je parle de management, je dis très souvent que c'est exactement comme un escalier. Un escalier, ça se nettoie toujours en commençant par le haut. Est-ce que tu es d'accord, Hervé Charles, qu'à un moment, si on veut parler de burn-out, de bien-être entreprise, il faut que ça commence par les comités de direction?
J'essaie de rebondir sur l'image de l'escalier, mais je vois pas. Je dirais que c'est une globalité, en fait, une entreprise. C'est pas un. Si le boss ne fait pas son job, ça fonctionne pas. Si, excuse-moi, mais le N-40, et je l'ai rencontré dans des entreprises, ne fait pas son job, ça ne fonctionne pas. Une entreprise, c'est une globalité. On a besoin de chaque élément, de chaque composant. Donc tout le monde doit faire son job, tout le monde doit respecter chacun.
Oui, mais Hervé Charles, pardon de t'interrompre, mais si le grand patron exige que son N-1 travaille 40, 50, 60 heures par semaine, le N-1 va exiger de son N-2 qu'il fasse pareil, etc., etc. Alors que si le top management dit, les amis, le vendredi à 18h, c'est fini, pas de mail pendant les semaines, pendant le week-end, etc., si le top management donne l'exemple, c'est ça l'exemple de l'escalier. Tu vois ce que je veux dire? C'est le top management doit donner l'exemple.
Je te rejoins, mais à quel moment on a enseigné ça aux managers?
Jamais. Bien sûr. Jamais. Donc, oui, mais c'est notre métier, Hervé Charles, à tous les deux, d'éduquer les managers.
Gaël, on a encore
des fois, on va pas prendre notre retraite à 67. Work-life balance pour les gens, pour qu'on s'affiche comme étant ça, c'est les valeurs de l'entreprise. Et c'est vrai, pas de mail dans le week-end, pas de travail après les heures. Et finalement, tout le monde se barre à l'heure, etc. Et les gens continuent, travaillent en catimini et personne ne parle de sa surcharge de travail. Parce que ça ne serait pas bien vu.
Oui, mais Neja, alors je vais redonner la parole à Hervé Charles tout de suite. C'est justement, Hervé Charles, est-ce que tu ne penses pas que s'il y a une volonté du comité de direction, ça peut changer ?
Je vais te donner un exemple très simple. J'ai la chance de pouvoir transmettre le peu de connaissances que j'ai à des DRH, à des stagiaires RH. Ce sont des gens qui sont en Master 1, en Master 2. Et la question que je leur pose souvent, est-ce que vous lisez vos mails pendant vos week-ends ? Est-ce que vous lisez vos mails pendant les vacances ? Ce sont des alternants, ce sont des stagiaires. Et ils me répondent à 80% oui.
Bah, c'est effrayant.
Ce sont des stagiaires. Ce sont des gamins, ce sont des gamines qui ont 20 ans, 22 ans. Je peux dire gamins et gamines avec respect. Hein.
Vu notre âge, on a le droit de le dire, oui.
Oui, on est bien d'accord. Et ce que je veux dire, ça m'affole. Et je leur dis, mais est-ce que c'est votre manager, votre tuteur, dans certains cas de figure, qui vous l'impose ? Non, c'est eux. Qui se l'imposent. Et c'est ça qui est encore plus effrayant. C'est-à-dire que leur tuteur, leur tutrice, leur manager ne leur demande pas forcément, mais eux le font
oui,
comme
mais
une
Hervé réelle. Charles, je suis d'accord, mais à un moment, un manager, et moi ça m'est arrivé plein de fois, de dire à un collaborateur ou une collaboratrice qui m'envoie des mails le week-end ou le soir et compagnie, je dis, je t'interdis de faire ça.
Alors ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai eu un stagiaire pendant un temps, je lui ai coupé son ordinateur.
Ben oui, non mais pour ça Hervé Charles, je sais très bien qu'on est d'accord à peu près sur 99,99% des choses et que bah oui la responsabilité.
Je sens que tu vas payer le resto.
Non, moi je sens que tu vas faire péter le champagne Hervé Charles. Mais bon, avant de parce qu'on s'est donné rendez-vous dans un an quand même, ça fait très Patrick Bruel comme rendez-vous Hervé Charles quand même. On s'était donné rendez-vous
c'est ça,
dans
oui.
Ouais, je vais pas chanter sinon je vais faire pleuvoir. Alors Laurent étant en ligne, cher Yvan, c'est toi qui va conclure la room avec ton témoignage ou ta réflexion. Et Yvan, je sais que tu as forcément une réflexion très intéressante sur le sujet. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ce qu'on s'est dit là aujourd'hui ?
Alors merci de m'y avoir invité et merci à tous. Chaque fois c'est super intéressant, tes rooms. Du coup la conclusion, je ne sais pas si c'est une conclusion, mais en fait ça m'a fait tilt quand Léna a rappelé les trois facteurs que sont l'intensité du travail, les relations sociales et les conflits sur les valeurs. Et en fait, moi j'ai un modèle qui est le mien, mais que j'aime bien partager. Il part du principe qu'on est bien à tout endroit, pourvu que notre équilibre physique, notre équilibre mental et notre équilibre émotionnel soient à peu près équilibrés, justement. Et quand on a parlé de... Parce que du coup, tu sais que je participe... Enfin, en tout cas, que j'assiste à toutes tes rooms, là, toutes les semaines.
Et
quand
je
on a parlé
de... remercie.
Non, mais il y a pas de. C'est moi qui te remercie. Et que quand on a parlé de burn-out et qu'on a parlé de bore-out et de brown-out, en fait, j'ai retrouvé les trois pendants de l'équilibre. Je mettrai le burn-out comme quelque chose de l'ordre du physique, parce qu'on parle d'une intensité au travail ou d'une surcharge au travail. On parle de l'émotionnel. Ça serait plutôt les valeurs émotionnelles. Et on parle aussi des relations sociales, que je mettrais plutôt dans le mental, dans l'idée de savoir comment on gère nos relations au boulot, parce qu'on n'est pas dans la vie privée. Et en fait, quand j'ai entendu le témoignage de Céline du début, et quand j'entends celui de Hervé Charles de la fin, je suis assez d'accord avec Hervé, et en même temps, je peux être qu'embêté pour Céline. Mais je pense que, comme le disait Hervé, c'est quelque chose de global. Et plutôt que... C'est là où, des fois, Gaël, on en discute, mais plutôt que ça soit que la faute du manager, je pense que c'est une responsabilité partagée et que, bien sûr, le manager N+1 ou N+40 ou N-40 a veillé à cet équilibre-là physique, mental, émotionnel dans le cadre du travail. Mais, et c'est là où j'espère que Céline ne m'en voudra pas, c'est qu'on a tous, chacun à notre endroit, à le veiller pour nous-mêmes. Et donc, je sais que ce n'est pas facile, mais des fois, on aurait cette responsabilité de dire, là, il m'en demande trop, je me barre parce que ce n'est pas possible. Voilà, donc,
le camarade Yvan, on sait qu'on est pas, on est globalement avec Yvan, on se connaît. Alors juste pour les gens qui sont pour la première fois cette room avec Yvan, on commence à papoter, ça fait quand même quelques mois, et on est globalement d'accord sur plein de trucs, mais il y a ce petit sujet où on n'est pas d'accord, et que moi, ma bataille, c'est de rappeler que dans le mot manager, c'est marrant parce que le métier, il est inclus dans le nom du métier. C'est-à-dire qu'un manager doit manager. Et donc, il doit faire attention au bien-être de ses salariés. Donc, mais c'est un désaccord qu'on a et c'est, je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Alors, bon, alors, sauf que, comme
je suis... Ce n'est pas trop un désaccord parce qu'on est on est d'accord sur le bien-être du collaborateur.
Non, non, mais sur la responsabilité, c'est là où on a un petit désaccord. C'est où toi, ta position, c'est de dire on doit chacun individuellement être attentif à son propre burn-out dans l'absolu. Alors que la psy, tout à l'heure, pardon, j'ai une mémoire de poisson rouge, je ne me rappelle plus de son prénom.
Sophie
disait, on ne se rend pas compte qu'on va aller en burn-out. Et c'est ça le problème. Et c'est là où le rôle du manager est essentiel. Parce que les gens qui vont faire un burn-out ne s'en aperçoivent pas. Et je te jure, Yvan, je te jure, Yvan, mais vraiment, tous les gens à qui j'ai parlé qui ont fait des burn-out, malheureusement, ils ne s'en rendent pas compte. Et il y a un matin, ben, ils ne se lèvent pas, ils ne comprennent pas. Et je te
promets. Oui, mais c'est pour ça que je ne mets pas la charge sur le collaborateur. Je dis que c'était une responsabilité partagée et qu'en fait, oui, le manager a... je suis d'accord, je suis 500% d'accord
avec toi. Mais non, mais en plus, on est d'accord, Yvan.
C'est sa mission, mais que le collaborateur, et je sais que des fois le contexte ne s'y prête pas, mais devrait pouvoir communiquer. Alors, c'est aussi la faute du manager, mais c'est un défaut de communication parce que chacun devrait pouvoir dire à son endroit ce qui pourrait améliorer le travail de l'autre, je veux dire comme ça, ou la collaboration.
On est tellement d'accord. Alors, les amis, alors voilà, j'ai pas respecté ma parole, il est 19h06, donc j'ai 6 minutes de retard, mais ce sujet était passionnant. Mais quel room ! Moi, j'ai appris plein de trucs. Céline, j'ai pas de mots pour te remercier de ton témoignage. Neza, pareil. Kevin, merci. Yvan, inutile de te dire que je te remercie. Et Léna et Hervé, un petit mot. Je crois que j'ai donné la parole à Léna en dernier, en premier. Donc, Hervé, un mot de conclusion sur ce sujet ?
Un débat super intéressant et vraiment très enrichissant. Un dernier mot, c'est si vous avez un collaborateur, c'est un petit type ça en fait qui fonctionne. Si vous voyez en permanence, je le dis tout à l'heure, où je vais y arriver, et vous voyez qu'il n'y arrive pas, ça doit être une petite lanterne rouge et à mon avis, il va falloir commencer à regarder, à l'épauler. Et si effectivement ça n'avance pas, interrogez-vous sur comment la personne a été démotivée, pas pourquoi, mais comment. Ça vous permettra effectivement d'aller chercher la racine du mal si vous travaillez sur le comment. Voilà, c'était juste le petit tips comme ça.
Bah, merci. Et tu te rends compte, Hervé Charles, enfin, on n'a parlé que du burn-out, mais peut-être qu'on fera une autre room spécifiquement, burn-out, mais tu as raison. À un moment, il faut parler avec les gens, parler avec vos collaborateurs. Dites-leur bonjour en les regardant dans les yeux. Si vous êtes en présentiel, souvent, la fatigue et l'arrivée d'un burn-out, ça se voit dans les yeux. Léna, un petit mot de conclusion ?
Alors moi, c'est un petit message au manager hein, de faire vraiment très attention à l'exemple que vous donnez, parce que parfois, sans le savoir, vous êtes à l'origine des injonctions que les salariés se donnent, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, que parfois, les salariés, sans qu'on leur demande, ils se mettent la pression eux-mêmes, mais ça vient toujours, je trouve, d'une culture managériale qui est implicite. Voilà, donc très attention à être exemplaire.
Bah écoute, Léna, Hervé Charles, merci beaucoup pour ces mots de conclusion. J'ai pas de mots pour vous remercier. Vous savez quoi ? Allez, le backstage de Happy Work sur Clubhouse. J'ai hésité à annuler cette room il y a 24 heures en me disant c'est un peu déprimant quand même comme sujet pour un 6 août. Et finalement, c'était juste passionnant grâce à vos interventions. Donc merci à ceux et celles qui sont montés sur le stage. Vu l'audience, visiblement, ça vous a intéressé. Donc merci d'avoir été là. Juste pour rappel, si vous voulez assister au Room Happy Work, vous pouvez aller sur la petite maison verte, cliquez sur, abonnez-vous à Happy Work. Alors je sais qu'un jour, et je vous promets, Léna, Hervé, Charles, je le jure, la prochaine fois, j'aurai le thème de la semaine prochaine préparé pour la fin de cette room, mais je n'ai pas encore le thème.
Wow.
Léna, vous avez le droit de vous moquer pendant 2 secondes. Non, mais on va essayer de faire un thème un peu léger. Je ne sais pas encore ce que ça sera, mais en tout cas, vous êtes les bienvenus sur Happy Work. Le replay sera donc en ligne dimanche. Allez écouter aussi le podcast Happy Work parce qu'il y a quand même quelques good vibes dessus. Mais en tout cas, merci pour cette room. Merci Léna, merci Hervé Charles, merci Céline, merci Neza, merci Kevin, merci Yvan. Et merci à toutes celles et ceux qui étaient dans l'audience. J'ai passé un moment juste de ouf parce que je suis censé être le spécialiste un petit peu du bien-être au travail et j'ai appris plein de trucs. Et c'est ben, le kiff de cette room. J'apprends toujours des choses grâce à vous toutes et tous. Et vous savez quoi ? Truc de ouf, on est vendredi, il est 19h et je vais pouvoir vous dire bon week-end les amis. Et je vais fermer cette room bientôt. Hervé Charles, prépare-toi. Carte bleue, parce que quand je prends du champagne, c'est pas une petite marque.
Bon week-end à tous et surtout, commence à réserver le restaurant.
Oui. Allez, les amis, je vais fermer cette room dans 3, 2...
Merci, Gaël. Bon week-end.
1. Et je ferme merci à vous toutes du plus profond de mon cœur. Je suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Ciao.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.